président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous donne la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous donne la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous donne la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous donne la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, Pas de Quartier reçoit Sophie Brondel. Nous avions reçu Sophie Brondel à plusieurs reprises pour évoquer le drame qui se passe en Birmanie. Sophie, bonjour.
Bonjour.
Alors, Sophie, tu peux nous rappeler l'objet d'Info Birmanie, ta position à l'intérieur de cette association ? Avant qu'on ne commence à parler des exactions en Birmanie.
Oui, Info Birmanie est une association qui a été créée en 1996 et qui fait un travail d'information et de plaidoyer sur la situation des droits humains en Birmanie et qui, évidemment, est très mobilisée depuis le coup d'État à travers des campagnes d'interpellation d'entreprises françaises en lien avec la junte et à travers une campagne de sensibilisation hashtag Avec toi Myanmar que vous pouvez retrouver en ligne pour sensibiliser le public français à la situation en Birmanie.
Bien. Alors, hashtag avec toi Myanmar et non pas avec toi Birmanie, je crois. Pourquoi ?
Oui, alors là, la campagne s'est désignée ainsi. Il ne faut pas y voir un choix vraiment spécifique sur le terme avec toi Myanmar, parce que c'est vrai que c'est aussi partagé par d'autres Birmans et puis à l'international. Donc on a retenu Myanmar, mais ce n'est pas un choix voilà, idéologique.
Alors moi, je parle de Birmanie et non pas de Myanmar. Et tu sais pourquoi ?
Et ce que nous continuons à faire aussi aujourd'hui, Info-Birmanie s'appelle, enfin on parle de la Birmanie en France notamment, mais c'est vrai que le Myanmar, c'est un mot qui a été choisi par la junte en 1989 pour désigner le pays, et donc à partir de là, l'opposition en exil de l'époque avait refusé le choix de ce nom pour désigner le pays.
Alors, le coup d'État de février 2021 à plonger le pays dans le chaos. Est-ce que tu peux évoquer ce qui se passe actuellement en Birmanie?
Oui, merci Mariama de me donner l'occasion de revenir sur la situation en Birmanie, parce que malheureusement, plus d'un an et demi après le coup d'État militaire, la situation en Birmanie a tendance à disparaître du feu médiatique, et on en parle moins en France, même si des journalistes continuent à couvrir la situation du mieux qu'ils le peuvent. Évidemment, alors à l'intérieur du pays, c'est compliqué, mais on peut notamment quand même souligner que récemment, des reporters de France 24 ont fait un reportage auprès de la résistance birmane, et c'est un fait assez rare pour être souligné, donc il y a quand même des journalistes qui tentent de couvrir la situation, mais évidemment c'est très compliqué. C'est important de parler de ce qui se passe en Birmanie, parce qu'on y reviendra dans la deuxième partie. Il s'agit vraiment d'une révolution du peuple birman qui se soulève pour la démocratie, le respect des droits humains, pour la paix, pour un système fédéral démocratique, pour en finir avec la junte. Et donc face à cette résistance qui dure depuis un an et demi, la junte militaire commet énormément d'exactions et cherche à réprimer par tout moyen cette résistance. Et donc la situation du peuple birman est absolument dramatique. Pour illustrer cette répression, quelques chiffres, et ces chiffres sont à minima puisqu'on considère qu'il y en a sans doute beaucoup plus. C'est une association AAPP basée en Thaïlande qui répertorie le nombre de personnes tuées par la junte, le nombre de personnes arrêtées et détenues. Donc à ce jour, on en est à plus de 2338 morts, plus de 15 770 personnes arrêtées, plus de 12 576 personnes détenues par la junte. Et bien sûr, ces chiffres sont sans doute plus élevés. On peut noter aussi que ce régime absolument barbare prend pour cible les enfants. On parle de plus de 382 enfants qui ont été tués par la junte, plus de 1400 enfants arrêtés, et parmi eux 142 torturés. Donc c'est un régime militaire qui torture les enfants. C'est un régime aussi qui pratique la politique de la terre brûlée. C'est la seule méthode qu'il connaît, et on l'a vu par le passé malheureusement. Alors avec les Rohingyas, et ça les auditeurs ont entendu parler de la situation de cette minorité. Mais du coup, la politique de la terre brûlée pour la junte, ça consiste en fait à raser des villages entiers pour essayer de mater la résistance qui se développe aux quatre coins du pays. On parle de plus de 28 000 habitations qui ont été brûlées depuis le coup d'État militaire. La junte militaire pratique aussi la torture sur les prisonniers politiques et des violences sexuelles aussi auprès des détenus. Donc ça, c'est vraiment un phénomène d'une ampleur très importante qui est documentée par les ONG qui documentent les violations des droits de l'homme. La junte utilise aussi les procès politiques à des fins de répression. Donc vous avez les figures emblématiques les plus connues, évidemment Aung San Suu Kyi, qui a été poursuivi, qui fait l'objet de nombreuses accusations et qui là a déjà été condamné à 23 ans de prison et qui risque encore des dizaines d'années supplémentaires au vu des procès qui restent en cours. La junte prend pour cible donc d'anciens élus, d'anciens membres du gouvernement LND, des personnalités activistes, artistes, toute personne exprimant son soutien à la cause de la démocratie et des droits de l'homme est susceptible de faire l'objet d'accusations, de procès politiques, où évidemment il n'y a aucun droit de la défense, et ils sont condamnés en tout arbitraire à des années de prison. La junte cible même des personnes étrangères, puisque vous avez Shin Turnell, qui est l'ancien conseiller économique d'Aung San Suu Kyi, qui a été condamné une peine de 3 ans de prison, et aussi Vicky Bauman, qui est une ancienne ambassadrice britannique, qui a été récemment condamnée à 1 an de prison, ainsi que son Marie, qui est un artiste et engagé activiste birman. Donc ça, ce sont tous les outils de la répression. Et je voulais quand même évoquer alors deux événements très importants récents qui marquent la gravité de la situation. L'été dernier, on a eu l'exécution, la pendaison de 4 prisonniers politiques. C'était en juillet. Et depuis 1988, la junte n'avait pas,
n'avait pendu personne.
Voilà, il y avait un moratoire sur la peine de mort. Et là, en juillet, deux personnalités très connues ont été exécutées. Donc, il s'agit d'un militant et de l'écrivain Kojimi, un ancien leader du mouvement de 1988, qui avait déjà effectué 15 ans de détention pour son engagement entre 1988 et 2012, qui a été donc exécuté, et aussi le chanteur de rap Zai Harto, cofondateur du premier groupe de rap birman Acid, et qui lui aussi avait fait de la prison en raison de ses prises de position, et qui était aussi député de la Ligue nationale pour la démocratie depuis 2012. Deux autres personnes qui ne sont pas connues du grand public mais ont été également pendues, il s'agit de Lam Yo-hong et de Hong Turazo, excusez-moi pour la prononciation. Mais du coup, c'est vrai que cette annonce de ces quatre pendaisons a fait vraiment l'effet d'une onde de choc à travers la Birmanie et au sein de la communauté internationale. Alors malheureusement, quand un événement aussi grave se produit, c'est vrai qu'on attend des actes de la communauté internationale, et on y reviendra par la suite, mais c'est vrai que c'est un événement qui a été marquant par la gravité de ce que ça implique par rapport à la répression croissante que mène la junte birmane contre le peuple birman, mais aussi en contrepoids, ça met en lumière aussi l'inaction et le manque d'action suffisante de la part de la communauté internationale pour venir à bout de cette situation et venir en aide au peuple birman. Et pour évoquer aussi un autre événement récent qui a marqué les esprits et qui nous affecte aussi horriblement, c'est un événement qui date du 16 septembre, qui est tout récent. La junte militaire a bombardé une école dans un monastère, tuant 12 enfants dans le village de Let Yet Khon, dans la région de Sagaing, qui est un bastion de la résistance armée à la junte, de la résistance à la junte. Et donc la junte a délibérément bombardé cette école, tuant des enfants. Et là, je veux mentionner le nom d'une des petites victimes, parce que c'est vrai que souvent on en est réduit à parler de chiffres, mais à chaque fois qu'on parle de chiffres, de milliers de personnes arrêtées, de dizaines de milliers de personnes déplacées, enfin de tout, quand on a des chiffres, en fait, on oublie qu'à chaque fois il y a une vie humaine derrière qui s'en est allée trop tôt. Et là, il s'agit d'un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Fone Taiza. Et en fait, on a pu rapporter dans la presse locale les derniers mots qu'il a eus à sa maman. En fait, il avait eu un bras et une jambe arrachés, et il a dit à sa mère: « Je t'en prie, maman, aide-moi à mourir car je souffre trop. » Et ce sont ses derniers mots. Et donc, c'est vrai que quand on voit, en fait, quand on entend ces nouvelles quotidiennes, ce qu'endure le peuple birman au quotidien, et le fait que les actions qui doivent être prises pour soutenir la résistance du peuple birman ne sont pas prises, c'est vrai que du coup, c'est très difficile. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur la gravité de la situation en Birmanie. La junte commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Ce sont des termes juridiques qui sont employés alors par des ONG, mais aussi reprises par des experts indépendants de l'ONU. Les bombardements qui sont menés le sont grâce à la technologie russe que la junte emploie et achète. Donc c'est vrai qu'on a vraiment le devoir impérieux, en fait, de faire bien davantage pour venir en aide au peuple birman. Et je dirais que face à cette répression, bon, il y a des choses qui se sont mises en place au fil des années. C'est-à-dire que là, il y a un mécanisme d'enquête indépendant qui a été créé en 2018 pour enquêter sur les crimes commis en Birmanie. Là, depuis le coup d'État, donc il a recueilli beaucoup d'éléments de preuve qu'il peut soumettre à la justice. Mais maintenant, quid de la justice? Qui va juger les responsables de tous ces crimes en Birmanie? Et il faut dire que la lutte contre l'impunité et le fait de faire rendre des comptes aux auteurs de ces crimes est un enjeu très important au niveau international. Et on doit quand même mettre en avant aussi que face à ces crimes et face à l'action de la communauté internationale qui n'est pas suffisante, il y a un ressentiment croissant des Birmans par rapport à la communauté internationale, et ça doit aussi nous alerter, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais que là on est sur une fenêtre de tir assez rapprochée, où c'est maintenant qu'il faut les faire et pas dans dans 6 mois, dans 1 an, dans, voilà, il faut vraiment agir maintenant.
Surtout que le peuple birman a le même adversaire que le peuple ukrainien, la Russie.
Oui, alors c'est important de dresser des parallèles entre les deux situations, qui évidemment ont aussi beaucoup de différences, mais toujours est-il que oui, il y a vraiment des similitudes, et il faut voir que le régime russe se rapproche beaucoup du régime birman, et le chef de la junte s'est rendu récemment en Russie, des officiels russes se sont rendus en Birmanie, donc c'est une coopération tout azimut militaire et aussi économique, diplomatique, enfin c'est vraiment une coopération rapprochée qui se met en place, et il faut bien voir que Poutine salue les efforts de Minoling pour la stabilité de la Birmanie. Et de son côté, Minoling salue Poutine comme un leader du monde qui contrôle et organise la stabilité à travers le monde. Donc on voit bien que ces deux dictateurs ont vraiment la même vision de la stabilité, à savoir le fait de déployer une destruction sans nom sur les territoires qu'ils cherchent à contrôler. Donc ça, c'est vrai que ça doit nous alerter. Et évidemment, le soutien qu'on apporte à la résistance ukrainienne, et c'est vrai qu'en tant qu'Européens, de par la proximité géographique, etc. Les gens sont peut-être plus sensibilisés ou mieux informés sur ce qui se passe en Ukraine. Mais c'est vrai que du coup, la résistance du peuple ukrainien est faite au nom de la démocratie, comme l'est la résistance du peuple birman. Et le régime de Poutine, le régime de Minoling emploient les mêmes méthodes de terreur. Et on a vraiment... On a vraiment besoin de se mobiliser beaucoup plus fortement sur la situation en Birmanie. Et c'était d'ailleurs le sens d'une tribune que Info Birmanie a co-signée avec la diaspora birmane, à la fois la communauté birmane de France et l'association Doatu Ensemble pour le Myanmar, dans le monde, il y a quelques mois, pour interpeller la France et l'Union européenne, et justement pour dresser des parallèles, pour dire voilà ce qui est fait en Ukraine, c'est important. C'est essentiel. Vous pouvez faire plus pour la Birmanie et il faut soutenir la résistance des Birmans à travers différents moyens, qu'ils soient diplomatiques, technologiques, stratégiques. Enfin, il y a énormément de modalités de soutien qui ne sont pas encore développées et qui doivent absolument l'être.
Alors, deuxième partenaire de la Birmanie, la Chine. Quid de la Chine ? Parce que la Chine, elle a un rôle essentiel auprès de la Russie pour l'Ukraine, mais elle n'a pas le même rôle pour la Birmanie. C'est-à-dire qu'elle modère Poutine parce qu'elle a peur de ce qui va se passer en Ukraine. Par contre, pour la Birmanie, elle n'en a rien à foutre, si je puis me permettre.
Oui, alors c'est vrai que évidemment, le soutien de la Chine au régime de la junte est aussi un aspect très important, soutien diplomatique. Et puis, effectivement, la Chine déploie aussi son projet de route de la soie à travers la Birmanie, il y a d'importants intérêts chinois en Birmanie à ce titre, économique et stratégique. Ce qui a souvent été mis en avant, c'est le fait que si la situation continue à se dégrader, c'est-à-dire que cette instabilité, cette insécurité, dès lors que les intérêts chinois seraient pris pour cible, ce qui n'a pas été trop le cas jusqu'à présent, sont préservés. Si c'était le cas, est-ce que la Chine pourrait revoir sa position. Après, ce qui est certain, c'est que la Chine n'a aucun intérêt à voir un régime démocratique survenir en Birmanie. Et donc, du coup, les leviers qui peuvent être actionnés sur le régime chinois de la part d'acteurs extérieurs, c'est une vraie question, mais c'est vrai que c'est aussi très difficile.
Bien. Alors, pour la Birmanie, il y a consensus. J'ai été étonnée, lorsqu'il y a eu le coup d'État, de découvrir, dans une tribune, dans les échos, je les lis pour des motifs économiques, de Dominique Moisy, qui expliquait que s'il y avait coup d'État et il y avait le chaos en Birmanie, c'était dû à l'avidité et à l'égoïsme des généraux birmans. Eh bien, j'aurais pas cru qu'un éditorialiste des échos signerait un éditorial aussi rageur contre la Birmanie, qui pourrait rejoindre ce que dit La Croix, qui a plus partagé les informations sur la Birmanie que les échos. Mais la position est la même. Pourquoi on n'arrive pas à avoir un levier dans l'opinion publique ? C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Les Birmans, il y a des compagnies françaises, énormément de compagnies françaises en Birmanie. Il y a une proximité avec la Grande-Bretagne, puisqu'elle a été colonie de Grande-Bretagne. Pourquoi on n'arrive pas à faire passer le message birman dans le monde entier, aussi facilement que les Ukrainiens l'ont réussi pour le leur?
Ça, c'est une question hein, que l'on se pose aussi souvent, mais en même temps, c'est vrai que tu évoquais la Grande-Bretagne, mais qui est du coup l'ancienne puissance coloniale. Et c'est vrai que du coup, la diaspora birmane aussi est faible en France, mais elle a été très active hein, depuis le coup d'État militaire. Elle s'est beaucoup mobilisée pour qu'on parle de la situation en Birmanie. Elle a fait du plaidoyer, elle est allée rencontrer les élus. Après, je pense qu'il y a aussi, il y a un éloignement géographique, une méconnaissance de la situation. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la Birmanie. C'est loin, évidemment, par rapport à l'Ukraine. Et puis aussi, il faut dire aussi, en toute honnêteté, qu'il y a énormément d'enjeux qui peuvent nous alerter, que ce soit la crise sanitaire pour certains, la crise écologique, la situation au Yémen, en Iran, en Ukraine, en Birmanie et encore sur d'autres fronts, en Éthiopie. Enfin, il y a énormément de situations dans le monde qui peuvent nous mobiliser. Alors, il ne s'agit pas de dire que les gens ne peuvent peut-être pas se mobiliser sur tous les fronts. Après, sur la Birmanie, c'est vrai qu'il y a toujours un travail d'information qui pourrait être plus développé. Puis après, il y a le fonctionnement des médias aussi qui fait que je trouve qu'on a quand même beaucoup parlé de la situation en Birmanie dans les 6 mois qui ont suivi le coup d'État. Il y avait quand même une bonne couverture médiatique.
Exact.
Après, on peut aussi constater, mais c'est aussi les contraintes des fonctionnements des médias qui fait que après ils vont passer à un autre sujet, un sujet qui fait l'actualité. Les crises tombent dans l'oubli, les crises qui durent tombent dans l'oubli. Et puis après, au-delà des médias, c'est surtout par rapport aux politiques que ça doit nous interpeller. Puisqu'il y a eu beaucoup de déclarations de condamnation au niveau international, au niveau français. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des sanctions qui ont été prises, notamment au niveau de l'Union européenne, on y reviendra peut-être dans la dernière partie. Mais du coup, ce que déplore le peuple birman, la société civile birmane avec laquelle on est en lien, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup plus de déclarations de condamnation et pas assez de mesures et d'actions. Et les listes des actions qu'ils demandent sont là. Ah, on peut les lister. Je ne sais pas si on développe ça maintenant ou si on y reviendra dans la dernière partie. Mais du coup, il y a encore énormément de choses à faire. Et je pense que c'est ça qu'il faut continuer à mettre en avant.
Bien. Alors, tu vas nous redonner le nom du jeune rappeur birman. Parce que nous allons faire une pause musicale. Et c'est une de ces musiques que nous allons passer.
Oui, on a choisi donc un morceau du rappeur Zayarto du groupe Acid et qui est l'un des 4 prisonniers politiques pendus l'été dernier par la junte.
Merci Sophie. Yeah. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission sur la Birmanie avec Sophie Brondel, coordinatrice à Info Birmanie. Sophie, est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu as dit en première partie, à savoir que le peuple birman fait une révolution contre la junte. C'est une révolution contre la junte. Le mot révolution est un mot très fort.
Oui, alors le mot révolution est un mot très fort, mais il illustre très bien ce dans quoi le peuple birman est engagé dans son ensemble. Et tous les observateurs s'accorderaient pour utiliser ce terme. Hein. On parle de la résistance birmane à la junte, la résistance aussi qui est un mot fort pour nous par rapport à notre histoire. Et il faut bien voir que tout a commencé par un soulèvement populaire massif au lendemain du coup d'État.
Avec des anarchistes en première ligne.
Notamment, oui, et la jeunesse birmane, oui. Et du coup, un soulèvement populaire avec des millions de Birmans qui descendaient dans la rue. Et au début, c'était assez festif, hein, c'était pacifique. Et puis immédiatement aussi, il y a eu un mouvement qui est parti du corps médical, d'infirmières et de médecins dans la ville de Mandalay, qui ont décidé de faire grève, de dire qu'ils ne travailleraient pas sous le régime militaire. C'est devenu le mouvement de désobéissance civile, le CDM. Et il faut savoir que ça concerne toujours des centaines de milliers de fonctionnaires, de personnes de différents corps de métier qui refusent de travailler sous la junte, avec pour conséquence qu'ils ne sont pas payés, avec pour conséquence qu'ils risquent leur vie aussi. Et c'est un mouvement qui dure depuis un an et demi. Donc ça, c'est les prémices en fait du soulèvement. Et puis après, malheureusement, la junte a commencé à réprimer, à tirer dans la foule, à cibler les têtes, à tuer des jeunes. Et dès le mois de mai 2021, il y a eu des jeunes en fait qui ont pris des armes, qui est des forces de défense du peuple, qui ont constitué donc ces forces de défense du peuple pour lutter militairement contre la junte. En parallèle de ça, il y avait déjà des groupes ethniques armés qui sont en lutte contre le régime central, qui revendiquent l'autodétermination, des droits sur la gestion des ressources naturelles de leur territoire, le respect des droits humains aussi sur des territoires que les militaires ont beaucoup réprimés à travers le temps. Donc il y avait ces groupes ethniques armés qui luttaient aussi donc, contre la junte. Et en septembre 2021, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, le gouvernement d'unité nationale qui s'est constitué au lendemain du coup d'État et qui représente les élus en fait, qui ont été déchus par le coup d'État, auxquels se sont associés des représentants de minorités de la société civile, donc qui est plus large quand même que la LND, même si la LND, il y a une place importante. Du coup, ce gouvernement d'unité nationale a déclaré une guerre défensive du peuple birman face à la répression de la junte et face aux exactions que la junte menait tous les jours. Et donc, depuis un an, cette guerre défensive s'est développée. Je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais en mai, on estimait qu'il y avait environ 257 unités de forces de défense du peuple à travers le pays, avec des bastions de la résistance, notamment dans l'État Chine, dans l'État Kaya, dans la région de Sagaing, de Mandalay, que le gouvernement d'unité nationale birman avait levé près de 30 millions de dollars pour financer des équipements, des formations pour cette résistance armée. Alors, il faut bien voir que le peuple birman, les Birmans souscrivent à cette résistance, même ceux qui n'y prennent pas part, soit parce qu'ils ne souhaitent pas prendre les armes ou ils ne peuvent pas, mais il faut voir que tout le monde est solidaire en fait de cette résistance qui prend de multiples formes. Des Birmans continuent à manifester sporadiquement dans les villages, aux quatre coins du pays. On peut voir sur les réseaux sociaux des villageois, pas plus tard qu'hier avec la fête des Lumières, qui est une fête bouddhiste, on a vu un village entier réuni avec les enfants, les femmes, les hommes à la nuit tombée avec des lumières et en train de scander le chant de la révolution. Donc ce sont des images très fortes parce que ça montre qu'en dépit des risques, c'est-à-dire que toute personne qui manifeste peut être arrêtée, puis tuée, torturée, peut disparaître. On voit un village entier se mobiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui dure un an et demi après le coup d'État. Et puis aussi, il y a eu un appel au boycott des produits militaires. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Les Birmans refusant en fait de financer, de donner de l'argent à des entreprises qui sont contrôlées par l'armée. Donc ça, c'est par exemple des Birmans aussi qui n'ont plus voulu payer leurs factures d'électricité. Donc un boycott assez massif comme ça des produits militaires. Et évidemment, donc du coup, cette lutte armée à laquelle le peuple birman souscrit. Il s'agit d'une résistance, d'une révolution. Il y a vraiment la volonté de renverser la junte. C'est-à-dire que on n'est plus dans le compromis, le dialogue, il faut s'asseoir à une table et discuter avec les militaires. Et en même temps, avec les exactions, les horreurs que je viens de décrire dans la première partie de l'émission, qui pourrait s'asseoir à la table des négociations? Qui a-t-il à négocier? Sachant par ailleurs que les militaires n'ont pas de parole. Donc il s'agit vraiment de renverser le régime.
Ils ne peuvent plus reculer, comme dirait le général qui résistait à Stalingrad. On ne peut plus reculer.
Mais là, ils ne sont vraiment pas dans une dynamique de recul. Ils sont au contraire dans une dynamique de développement de cette résistance, puisque là, le gouvernement d'unité nationale vient d'annoncer qu'il passait à une guerre offensive.
D'accord.
Mais en même temps, ce qu'il faut voir aussi par rapport à ça, c'est que la période dans laquelle on rentre là est assez importante, parce que la junte, d'un autre côté, annonce la tenue d'élections, de pseudo-élections, évidemment, en août 2023, pour chercher à légitimer son pouvoir, alors que, bon, par ailleurs, elle est quand même en perte de légitimité sur tous les fronts, et puis en perte aussi, elle essuie des pertes sur le terrain, elle est mise en difficulté. Il y a un groupe d'experts, le Special Advisory Council Myanmar, qui vient de publier un rapport récemment pour dire que la résistance birmane contrôlait plus de la moitié du territoire, et que l'autre partie du territoire birman est contesté, il y a des affrontements, etc. Donc la junte est loin de contrôler la situation à tous les niveaux. Hein. Tous les indicateurs économiques, sociaux, humanitaires, enfin tous les indicateurs sont au rouge et la situation du pays est vraiment très très mauvaise. Toujours est-il que comme il y a cette annonce, cette échéance en fait d'élections, que les États-Unis ont déjà déclaré comme étant des élections évidemment que personne ne reconnaîtrait parce qu'elles sont truquées d'avance. Bon, ça, tout le monde en est d'accord, mais on voit bien que comme il y a cette logique en fait de légitimation, c'est vraiment maintenant, tant que la résistance aussi est en plein développement, qu'il faut lui venir en aide, d'où les appels et les demandes du peuple birman pour que beaucoup plus soit fait en termes évidemment de reconnaissance alors de ce gouvernement d'unité nationale, puisque à ce jour il n'est pas reconnu officiellement à l'ONU, c'est-à-dire que l'ambassadeur à l'ONU qui avait été désigné par Aung San Suu Kyi avant le coup d'État a vu son poste maintenu l'année dernière, se pose là en ce moment même devant l'ONU la question de savoir si l'ONU va enfin dire que cette personne est le représentant de la Birmanie, ou si c'est juste on reconduit son siège sans vraiment se prononcer. Il y avait vraiment cet aspect-là l'année dernière, de comme si on temporisait pour voir quel camp allait marquer des points. Et là, cette année, face à la situation, il est très important qu'à l'ONU, on dise, voilà, c'est le représentant de la Birmanie, c'est le représentant du gouvernement d'unité nationale, ce n'est pas la junte. Et même chose au niveau des États. Alors, il y a des représentants du gouvernement d'unité nationale qui font des rencontres de très haut niveau aux États-Unis, certains qui s'affichent publiquement avec des représentants, mais pour l'instant, au niveau de l'Union européenne, au niveau français notamment, on n'en est pas là. Et ça semble quand même assez évident. Enfin, pour le peuple birman, ce gouvernement représente ceux qu'ils ont choisis, représente la démocratie, représente le choix du peuple. Et du coup, quand on voit de l'autre côté ce que la junte commet tous les jours, et puis bon, ce coup d'État militaire illégal, illégitime, et toutes ces violences, l'enjeu, la bataille de la légitimité devrait être gagnée, mais il faut faire vite et il faut le faire maintenant. Il y a beaucoup plus qui peut être fait, et beaucoup plus qui peut être fait aussi en termes de sanctions ciblées, donc ça peut-être qu'on l'évoquera aussi par la suite, mais de sanctions ciblées pour atteindre la junte au portefeuille, et aussi par rapport aux ventes d'armes aussi qui lui bénéficient. Il y a énormément de choses quand même qui doivent être faites de l'extérieur, même si après tout le monde s'accorde que ce qui se joue aussi, ça se passe en Birmanie, et évidemment les leviers principaux sont sur le terrain, mais avec une résistance soutenue autant qu'elle peut l'être par l'extérieur.
Alors, tu viens de dire que le mouvement de résistance qui fait la révolution actuellement Il est beaucoup plus large que la Ligue nationale de la démocratie. C'est-à-dire que les minorités qui, de tout temps, ont combattu la junte, se sont jointes à elle. Et ça, c'est nouveau, ça. C'est-à-dire que, quelque part, ils vont former la nouvelle Birmanie.
Oui, alors c'est l'enjeu. Après, ce qu'on peut dire, mais là, il faudrait vraiment, ça serait l'objet d'un débat en tant que tel, hein, pour rentrer dans les nuances et puis développer la question. Mais d'un côté, on a pu constater au lendemain du coup d'État un phénomène nouveau, c'est-à-dire avec des Birmans qui prenaient conscience des violences subies par les Rohingyas et par d'autres minorités ethniques avant le coup d'État. Et donc ça, hein, c'était un phénomène effectivement nouveau. Et on a vu aussi, avec la résistance armée, des groupes ethniques armés former les jeunes qui rejoignaient les forces de défense du peuple. Donc il y a exact. Des alliances qui se créent,
voilà.
Un travail commun, une lutte commune.
Ils ont un adversaire commun de toute façon.
Ont, voilà, face à l'adversaire commun. Donc ça, c'est un phénomène qui est nouveau, qui est inédit et qui est porteur d'espoir effectivement pour tous ceux qui portent l'idéal et le projet politique d'une démocratie fédérale. En Birmanie. Après, évidemment, d'autres mettront en avant, et c'est important de le faire parce qu'il y a encore beaucoup qui doit être fait pour construire cette unité et l'appuyer. C'est un autre volet, en fait, de l'action qui doit être menée maintenant pour certains, et c'est assez important de le souligner puisqu'il y a des instances qui se sont mises en place consultatives, en fait, pour fédérer la société civile, les minorités ethniques, les groupes ethniques minoritaires dans un conseil consultatif pour élaborer aussi une charte fédérale qui sera la future constitution de la démocratie birmane que le peuple birman appelle de ses voeux. Et donc là, il y a tout un travail aussi d'unité, de définition d'un projet commun et évidemment aussi des conflits et des divisions à surmonter, puisque dans le contexte du coup d'État, on peut quand même voir qu'il y a des organisations ethniques armées qui soit restent en retrait du conflit, soit pour certaines, en fait, opèrent des choix stratégiques de plutôt se rapprocher de la junte, ou en tout cas de pousser leur propre agenda sur leur territoire. Donc certains mettent en avant quand même un risque de division ou de morcellement du pays aussi.
Balkanisation, comme on dit.
Oui, c'est ce qui est mis en avant par certains comme un risque, et d'où l'importance aussi d'appuyer cette démarche fédérale à travers les comités consultatifs qui sont mis en place, et de faire un travail sur justement cette unification au niveau de ce que les Birmans veulent pour l'après-junte. Ça, c'est un travail aussi qui doit être entrepris maintenant, et ce sont surtout des travaux anglophones finalement qui mettent ça en avant, sur l'importance en fait de travailler sur ce volet-là aussi, en parallèle de cette résistance qui essaye de démanteler la junte. Il faut aussi préparer l'après.
Mmh. Alors, une révolution, nous avons une révolution, nous avons eu une révolution, elle est ce qu'elle est. L'Espagne a eu sa révolution. Est-ce que les Birmans se sont documentés sur les révolutions des autres pour voir comment mener la leur à bien, si je puis me permettre ? Est-ce qu'on leur a donné des conseils ? Non ?
Je ne serais vraiment pas en mesure de savoir quel est
l'agenda de cette révolution.
L'agenda, en tout cas, les enseignements qui peuvent tirer de telle ou telle révolution, de telle ou telle situation dans un pays donné.
D'accord. Alors, la résistance, les résistances, la révolution. Quelle est leur demande précise ? Est-ce que tu peux en lister quelques-unes pour donner envie aux auditeurs de Radio Libertaire de venir en aide en allant sur le site d'Afo Birmanie, afobirmanie.org, pour s'informer davantage sur ce qu'on leur raconte ce soir ?
Le peuple birman veut démanteler la junte.
C'est une révolution.
C'est ce qu'ils veulent faire. Et face à...
Tous les moyens sont bons.
Face à la brutalité et au mode opératoire de la junte, évidemment, et après des décennies de dictature aussi, ils en sont venus au fait, et c'est la la jeunesse aussi qui portent ce message, qu'ils ne peuvent plus vivre sous ce régime dictatorial, sous la junte militaire, et donc il faut la démanteler. Concrètement, bah évidemment, le peuple birman aspire à vivre dans un état démocratique où la paix règne, où les droits de l'homme sont respectés, où il n'y a plus l'arbitraire de la junte, puisque à partir du moment où il y a eu le coup d'état militaire, le peuple birman est rentré dans une dimension où chaque jour, en fait, le quotidien est fait d'arbitraire. Mm-hmm. Il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de respect d'aucun droit de l'homme et aucune possibilité d'envisager un pays prospère, harmonieux, un avenir pour cette jeune génération qui ploie sous le joug de la junte. Mais du coup, les demandes du peuple birman à la communauté internationale, donc il y a cet enjeu de légitimité dont je parlais, c'est reconnaissez le gouvernement d'unité nationale que nous avons désigné et donnez-lui les moyens d'intervenir sur tous les fronts. Bon, là, on a parlé du volet de la lutte armée, mais il y a aussi l'enjeu de l'aide humanitaire.
Oui.
L'enjeu de l'aide humanitaire, il faut savoir que depuis le coup d'état militaire, la situation humanitaire s'est énormément dégradée. Donc il y a plus de 1 200 000 déplacés internes à travers le pays du fait des violences. Et puis 12 millions de Birmans qui ont besoin d'une aide humanitaire et parfois de toute urgence. Ce qu'on constate en fait sur le terrain, c'est que les agences de l'ONU, donc l'OCHA notamment sur l'aide humanitaire, ont signé des accords avec la junte tout récemment, hein, renouvelant leur relation avec le système de la junte. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus décrié par le peuple birman et qui demande en fait à ce que l'ONU fasse preuve
de courage politique,
oui, pour à minima en fait engager un dialogue aussi avec le gouvernement d'unité nationale, parce que du coup, en prenant la neutralité, en fait, elle n'est pas neutre, puisque si elle s'engage uniquement avec la junte, c'est loin d'être de la neutralité. Et au contraire, puisqu'on sait que la junte, en fait, instrumentalise l'aide humanitaire, voilà. Détruit l'aide humanitaire à dessein pour empêcher que les populations en bénéficient, voire l'accaparent. Donc du coup, ça paraît très périlleux comme démarche en ce moment, et ça contribue à légitimer la junte. C'est le point de vue, et ce sont les arguments portés par la société civile birmane avec beaucoup de force en ce moment. Donc il y a une demande à ce que l'aide humanitaire puisse transiter par le gouvernement d'unité nationale, qui mène aussi tout un programme, c'est-à-dire qu'il faut voir que la résistance birmane, ce sont aussi des services publics qui sont délivrés à la population dans les zones qui sont sous contrôle de la résistance. Donc l'éducation, on voit des enseignants qui ont fait partie du mouvement de désobéissance civile, par exemple, rejoindre l'enseignement de la résistance et enseigner au péril de leur vie dans ces zones. Enfin, il faut voir que c'est la résistance, c'est ça aussi, soigner les Birmans. Donner aux enfants un accès à l'école, et tout ça participe de cette résistance qu'il faut soutenir. Donc il y a vraiment une demande de soutien à tous ces programmes-là pour permettre aussi, pour asseoir aussi ce gouvernement d'unité nationale dans le pays, pour lui permettre de développer tout ce qu'il entreprend pour asseoir son assise sur le pays.
En fait, c'est une demande de biens publics à l'échelle du pays.
Oui, exactement. Oui,
c'est... Alors, les biens publics, j'explique ce que c'est. Ce sont des biens comme la santé, l'éducation, l'environnement, la culture, qui ont un coût, mais qui ne doivent pas être soumis au marché, de préférence. Et les biens publics, la bataille des biens publics, elle a commencé il n'y a pas longtemps dans nos pays. À partir du moment où on a vu les services publics se déliter un peu partout. Et il se trouve qu'on a constaté que les biens publics, le monde entier les réclame en fait. Et la Birmanie en est un exemple criant. Qu'est-ce qui peut inciter un jeune à venir du côté du gouvernement de l'Union nationale. Mais quelque part, d'avoir ce que la junte lui refuse tous les jours.
Oui, oui, oui. Bah, lui refuse aussi, enfin, tout simplement, déjà, refuse le droit à la vie,
voilà.
Pour ne parler que de ce droit-là et tous les autres qui en découlent. Mais effectivement, les biens publics, enfin, la notion de service public est évidemment inconnue à la junte. Et il faut se représenter quand même un pays où il y avait des centaines de milliers d'écoliers qui ont refusé d'aller à l'école sous la junte militaire. Et il faut se représenter aussi des choses qu'on peut considérer comme un peu incroyables, mais pour illustrer le soutien dont bénéficie aussi cette résistance, c'est que le gouvernement d'unité nationale a mis en vente une propriété de Minoling, donc le chef de la junte à Rangoon, il y a quelques mois, et a récolté 10 millions de dollars. Et là, il y a quelques jours, le gouvernement d'unité nationale a de nouveau mis en vente des terres saisies injustement par l'armée dans la région de Mandalay, et en deux jours a récolté 9 millions de dollars. Donc ce sont des sommes qui ne sont pas suffisantes pour alimenter et permettre à cette résistance d'avoir assez de moyens
pour fonctionner,
mais ça montre quand même l'engouement aussi, et parce que ça vient aussi en partie de la diaspora birmane aux quatre coins du monde. Il faut bien voir que c'est vraiment un soutien populaire et massif du peuple birman à cette résistance, et c'est ce qu'on entend aussi du côté thaïlandais, des Birmans qui sont exilés en Thaïlande, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce discours de maintenant c'est vraiment la lutte pour démanteler la junte.
C'est la lutte finale.
Il ne s'agit pas de revenir en arrière, et il faut bien voir que tous les jours les gens aussi le payent au prix fort et de leur vie.
Alors, quelque part, c'est bien mal acquis, c'est aussi une lutte qui est faite aussi par les Africains.
Oui.
On a entendu parler des saisies spectaculaires de biens, jusqu'à ce qu'on saisisse les yachts des oligarques dans la guerre en Ukraine. En fait, les biens mal acquis, c'est une lutte mondiale. Est-ce que on ne peut pas dire quelque part que cette révolution, elle vient du fait de l'incapacité des acteurs de la précédente génération à démanteler la junte quelque part? On a vu Aung San Suu Kyi qui a résisté à sa manière, qui a essayé de composer avec la junte et qui actuellement est en prison et risque d'y finir ses jours. Donc les gens ont compris qu'on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Ce qu'on leur disait quelque part. Moi, je me rappelle très bien avoir reçu dans mon émission Alain Denot pour son excellent ouvrage « De quoi total est-elle la somme ?» publié aux éditions Rue de l'Échiquier et à Éco-Société, et qui expliquait le chapitre sur la Birmanie. Donc on ne peut pas négocier avec des gouvernements autoritaires, et ceux qui ont essayé s'y sont cassés les dents, à commencer par Aung San Suu Kyi. Donc ça, quelque part, elle a rendu service à son peuple, parce qu'il l'a compris, il faut démanteler la junte. Donc tous ceux qui participeront à démanteler cette junte, que ce soit en allant sur le site d'Info Birmanie, en achetant des biens mal acquis pour financer le gouvernement solidaire du peuple birman, tous les gestes sont bons pour démanteler la junte. Et en nous aidant, nous, la société civile européenne et occidentale, surtout massivement, on le verra dans la dernière partie, à empêcher les compagnies étrangères de nos pays respectifs de financer la junte.
Oui, c'est un aspect très important, mais par rapport à ce que tu dis, c'est sûr que la constitution de 2008, qui avait été mise en place par et pour la junte,
voilà,
garantissait son maintien au pouvoir, quelle que soit l'ouverture politique, que d'ailleurs la junte a accordé, enfin, les militaires de l'époque ont bien voulu...
Concéder,
mais en gardant la main mise, en fait, sur les principaux leviers du pouvoir, et ça, tout le monde le savait. Après, ce qui est sûr aussi, c'est que ça a été fait dans un contexte où certains ont préféré voir l'aspect ouverture aux investissements.
Voilà.
Et ça, évidemment, ça rentre en ligne de compte dans la l'analyse et dans ce que certains ont pu pousser. Et évidemment, bon, certains ont fermé les yeux et après, en même temps, voilà. Enfin, c'est vrai qu'avec le recul, cette période de semi-transition, enfin, de transition démocratique où il y a eu, évidemment, hein, des ouvertures indéniables. Et d'ailleurs, la jeunesse qui descend dans la rue a bénéficié de cette période de semi-transition. Et c'est aussi pour ça qu'elle refuse de retourner,
de lâcher du lest,
effectivement. Mais oui, c'est une donnée. Mais du coup, il s'agit pas de revenir dans ce système-là. Mais pour autant, on voit bien que c'est le système. Enfin, c'est pas forcément ça qui est promu. Mais quand la ASEAN, le regroupement régional économique en Asie, prône le dialogue avec toutes les parties prenantes et donc notamment avec la junte, c'est vrai que c'est ce que peuvent craindre les Birmans, c'est-à-dire qu'un compromis, un dialogue, ça ils n'en veulent pas. Et d'ailleurs la junte des fois le met en avant, elle condamne Aung San Suu Kyi à des années, des décennies de prison, tout en disant ah oui peut-être que une fois que son procès sera terminé, peut-être qu'on pourra dialoguer. Et donc on voit bien que ce n'est pas ce que veulent les Birmans.
Oui, bien. Alors, Sophie, je te remercie. On va faire une pause musicale que tu as choisie. Oui. Et on va venir sur la troisième partie, qui est, à mon sens, la plus importante. On va expliquer la nuance, parce que pendant des années, je fais partie des gens qui ont milité pour que certaines entreprises quittent la Birmanie. Et les Birmans ont une nuance. Ils préfèrent qu'il n'y ait pas de financement plutôt que le départ. Tu vas nous expliquer tout ceci.
Second track in the solution, ကျွန်တော်ကပါဖွင့်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာအဲ့လိုအကျန်းလေးရေးလာပြီးတော့ထောင်ကနေပြန်လွတ်တဲ့အချိန်ကျတော့မှာပဲရေးတည်တည်ချာချာရေးပြဆိုပြသွင်းပြတဲ့တဲ့ချင်းအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်တဲ့မျိုးဆက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနာမည်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ romix တာလေးလောက်ပဲလှုပ်ဖြစ်တဲ့တဲ့ချင်းမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီဘက်ခေရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဓာကြီးကိုတတ်တတ်ကြီးပြန်တင်ဖို့အတွက်ကကျတော့လည်းတိတ်ဟိုဖီးမလာဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ပြန်သေးသေးချာချာပြန်တီးပြန်ဆိုပြန်လှုပ်ဖြစ်နေတော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့အဲ့ဒီ ကတွေးခုလိုစိတ်စမ်းပြပဲစီစဉ်နေတဲ့ကတော့ရဲတွေးရေးပြတ်မရတမိုင်းတွေကိုလည်းထူးစစ်ခဲ့ကြဖြောက်မရပြောက်ကံသွားနိုင်ငါတို့ရဲ့ဘွားတူးစီဖြောက်စီငါတို့တတ်တယ်မတူကြီးပေမဲ့သားနိုင်ဦးတီကြီးမဲအကိုလျှောက်လန်းနေခဲ့တူးစီဖြောက်စီအသားရောက်နေကကွဲပြကိစ္စမရှိပါငါတို့ကခွဲကြကလန်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့လက်တွေကိုလည်းငါတို့မြဲမြဲဆုပ်ကန်ချင်းချင်းခိုင်ပြီးရှေ့ကိုဆက်ဆဲငါတို့အမ
Narodi kore led premye Aki pjata nga shesel la me blau tjenze me Narodi kore led kotwe Daha yoji jene sete ngaro myo zete be Narodi kore led premye Aki pjata nga shesel la me blau tjenze be Kai miene re china mune ngaro tuere suzi Yoji jene yeti muve ngaro etwe lo Mama mama yeti lulu shega Shega Ete miasi uti bi ngaro twaja Twaja Hey Mele tia pe Tinangama ngaro ne tu ne tani ze Tinangama ne tai biro tinangama mwe Tinangaya chong lido minu mye tui Tinangangu mene nele tinangangu che Tinangaji ne chani la minu ngaro pie Tinangaya pie piene tinangaya ye Hey minu mapa da do ye do ye Ngaro ji kore le ko tue Daha jemji jene sete ngaro myo zete be Ngaro ji kore le tue mye Aki pia tanga shesa lame blau chamze be Ngaro ji kore le ko tue Setting out of the way,
Chers auditeurs de l'émission Pas de quartier, du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde, nous sommes dans la dernière partie de l'émission consacrée à la Birmanie et à la révolution birmane avec Sophie Brondel d'Info Birmanie. Sophie, on va aborder le démantèlement de la junte passe par l'arrêt de son financement. Moi, je fais partie des gens de la génération précédente, à celle qui descend dans la rue tous les jours, les milléniums, et moi, je fais partie de la génération qui a milité pour que Total quitte la Birmanie. Quand Total a quitté la Birmanie, a annoncé son départ de Birmanie, je peux te dire que j'ai été la première soulagée. Et j'apprends que, par mes amis birmans, que c'est pas tout à fait ça. Donc tu vas nous expliquer la nuance qu'il faut apporter et ce qu'il faut faire par rapport au financement de la junte, pour couper le financement de la junte plutôt.
Oui, de toute façon c'est sûr qu'au lendemain du coup d'État, tous les projecteurs étaient de nouveau braqués sur Total en Birmanie, puisque ça, le gazoduc de Yadana représentait des centaines de millions de dollars pour le régime militaire de nouveau en place. Donc cet argent qui alimentait la junte redevenait un enjeu fort. Alors la société civile birmane et puis ensuite le gouvernement d'unité nationale sur cette question s'est rapidement orienté sur une demande qui ne consistait pas à demander à Total de partir, mais qui demandait à Total de suspendre ses paiements à la junte. Donc, et on voit que c'est aussi peut-être la reprise aussi, mais de d'autres demandes qui ont été portées par des experts internationaux et qui précédaient le coup d'État militaire, mais qui appelaient toutes les entreprises internationales à s'assurer qu'elles n'alimentent pas l'armée birmane avant le coup d'État, puisque la caractéristique de la Birmanie, c'est d'avoir du coup, après des décennies de dictature militaire et en dépit d'une période d'ouverture de 10 ans, une économie qui est gangrénée par les militaires, les anciens militaires, leur réseau, et donc un environnement économique quand même assez compliqué pour les entreprises soucieuses de respect des droits de l'homme et de diligence raisonnable en la matière. Donc la demande de la société civile, c'est effectivement la suspension par Total de ces paiements. Et on peut voir que lorsque Total a annoncé son départ, hein, qui est effectif depuis juillet, on peut voir que ces demandes de la société civile sur la suspension des paiements n'ont jamais abouti, puisque lorsque Total a annoncé son paiement en janvier 2000, lorsque Total a annoncé son départ en janvier 2022. Il a fallu attendre 6 mois donc, pour que ce départ soit effectif. Entre-temps, l'Union européenne a adopté des sanctions très importantes sur la Myanmar Oil and Gas Enterprise, la MOGE. Mais pour autant, sur ces 6 mois, en fait, le système de sanctions européen avait prévu une dérogation sur mesure qui permettait à Total du coup, de continuer à alimenter la junte en millions de dollars, centaines de millions de dollars, et à transférer aussi une partie de ses parts à cette même MOGE qui était placée sous sanction. Et donc c'est ça qui a aussi laissé un goût amer, c'est le moins qu'on puisse dire, à la société civile birmane, puisque jusqu'au bout, en fait, les intérêts quand même de Total et de la junte auront été préservés. Ces problématiques, ça a été dénoncé. Et ce que je voudrais souligner aussi par rapport au départ de Total, c'est qu'on attend toujours les suites de l'appel à la transparence qui avait été lancé sous le gouvernement précédent par la ministre de la Transition écologique de l'époque, suite aux révélations du Monde qui parut en mai 2021.
Alors, je vais faire un court
promotion sur le livre De quoi total est-elle la somme. Nous l'avions envoyé, je dis nous parce que nous sommes de la société civile, nous l'avions envoyé la version anglaise parce qu'il est, il est paru en trois versions. Alain Deneau étant d'origine canadienne mais québécois, il l'avait fait paraître en québécois, en anglais et en français. Nous avions fait parvenir à l'entourage de Aung San Suu Kyi la version anglaise. Et elle découvre ce qu'elle pressentait, à savoir que Total, c'est pas seulement une compagnie pétrolière qui exploite un gazoduc, c'est une solution de paiement pour la junte dans les paradis fiscaux et des paiements de commissions et de dessous de table tels que même le budget birman en apparaît, le budget de la Birmanie était ridicule à côté. Donc, légitimement, en tant que chef de ce gouvernement, elle avait intérêt à réclamer le retour de ces sommes pour pouvoir financer l'économie de son pays. Et il semblerait que ce soit la véritable cause de son limogeage et, et du coup d'État. C'est parce qu'elle s'apprêtait à couper, ce circuit offshore qu'elle a été mise en danger. Et donc, les révélations de Total... Les révélations sur Total dans le journal Le Monde confirment ce que Alain Deneau avait dit dans deux chapitres, les Bermudes et la Birmanie.
Oui, alors par rapport à ce que tu évoques, il est certain que la lutte contre la corruption, c'était un gros chantier du gouvernement LND qui avait énormément de choses à faire, puisque après des décennies de dictature et par rapport au poids de l'armée dans le pays, la corruption était vraiment un sujet sensible, mais absolument essentiel pour instaurer une véritable démocratie et puis développer le pays. Et évidemment, la lutte contre la corruption était certainement mal vue par les hauts gradés birmans. Et c'est un des aspects. Alors, c'est un des aspects, il y en a beaucoup, mais de toute façon, c'est sûr que le coup d'État militaire, c'est le refus des militaires de voir le parti qui avait gagné les urnes prendre plus de place et donc pouvoir poursuivre son agenda. Et donc c'est la volonté de garder la mainmise sur l'économie du pays, sur tous les secteurs lucratifs dont l'armée tire profit depuis des décennies, et donc évidemment notamment la rente du gaz.
Voilà. Alors, il n'y a pas que Total en Birmanie, il y a Accor, il y a d'autres qui sont partis.
Oui, alors il y a d'autres entreprises qui sont parties. Il y a un groupe d'experts là, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, le SACM, Special Advisory Council Myanmar, qui recense en fait toutes les entreprises et toutes les sanctions qui ont été prises et toutes les entreprises, grandes entreprises qui décident de quitter la Birmanie à un moment donné depuis le coup d'État militaire. Donc ce qu'on peut voir quand même, c'est que, enfin, il faut évoquer le contexte économique dans lequel ces départs ou ces demandes de départ s'inscrivent, c'est que la situation économique est désastreuse depuis le coup d'État. Elle l'était déjà dans le contexte de la crise sanitaire Covid. Mais là, avec le coup d'État, tous les indicateurs sont rouges et donc il devient très difficile pour une entreprise d'envisager d'investir dans un contexte économique tel et aussi dans un contexte sécuritaire aussi très dégradé. Il faut voir qu'il y a certaines entreprises qui ont pris des mesures au nom des exigences de droits de l'homme et de bonnes pratiques, d'autres à cause du contexte sécuritaire. On peut noter quand même qu'il y a d'autres entreprises qui sont parties, hein, qu'il y en a certaines qui ont suspendu leurs opérations, mais il faut voir justement, parce qu'on évoquait le cas de Total et sur le fait que les modalités de retrait des fois sont problématiques aussi, puisqu'il faut s'assurer que dans le retrait on ne permet pas à la junte
de
continuer à bénéficier des devises et des rentes, mais ce qui malheureusement, enfin dans le cas de Total pour le moment est le cas, mais on a d'autres exemples en fait de grands groupes qui ont annoncé leur retrait et c'était problématique dans les modalités. On a le groupe norvégien Telenor qui est assez emblématique, un groupe de télécommunications, un opérateur de téléphonie mobile, et en vendant ses parts, en fait il a vendu ses parts à un groupe libanais, du coup proche de l'armée, qui a cédé ses parts un conglomérat militaire, ce qui fait que le risque, en fait, c'était qu'il y ait les données, l'historique de 18 millions d'abonnés qui soient exposés à la junte, un transfert de technologie de surveillance aussi, et quand on voit à quel point le secteur des télécommunications est sensible en Birmanie, la junte l'utilise à des fins répressives. Donc du coup, ce transfert, enfin, ces modalités font l'objet d'une plainte au niveau de l'OCDE. La société civile birmane s'est mobilisée, donc elle est très vigilante sur les modalités de retrait de ces grands groupes. Et on a un autre exemple tout récent avec Puma Energy, qui vient d'annoncer qu'il quittait le pays. Et là, il y a une campagne qui a été menée par la société civile, Justice for Myanmar notamment, et Burma Campaign UK, sur la façon dont certaines entreprises alimentent en carburant l'aviation de la junte qui ensuite bombarde les civils. Donc il y avait cette demande très forte de couper l'approvisionnement en carburant, donc de sanctionner ces entreprises qui fournissent en carburant. Et là, on voit que sur Puma Energy qui annonce son départ, la question c'est à qui est-ce que les parts vont être cédées, et il faut s'assurer en fait que ça ne permette pas ensuite une continuité, mais que le départ en fait ait un impact positif sur le terrain, parce que ce n'est pas une entreprise proche de l'armée qui reprend, etc. Enfin, il faut être très vigilant là-dessus.
De toute façon, tout ce qui est kérosène est sensible. Il n'y a qu'à voir la polémique. Global Witness a travaillé sur l'Ukraine et elle a démontré que c'est Total qui est un des fournisseurs des avions qui vont bombarder l'Ukraine. Total a vu l'information fuiter dans le monde, encore le monde, merci le monde, et il a menacé d'un procès le monde. On l'attend toujours, le procès. Donc ça, ce qui prouve que Global Witness a fait un excellent travail de documentation. Et c'est vrai que pour la Birmanie, cette compagnie pose problème, comme Total pose problème à l'Ukraine.
Oui, bah c'est très problématique. Et là, on voit bien que quand on demande des sanctions ciblées sur ces compagnies, c'est très important qu'elles soient adoptées. Et là, on attend un nouveau cycle de sanctions de l'Union européenne. Et effectivement, il faudrait que ces entreprises, ces groupes, par rapport au carburant fourni à l'aviation militaire birmane, soient dans la liste, mais aussi les entreprises et des individus identifiés comme des intermédiaires dans les ventes d'armement. Parce que ça, c'est un autre aspect qui est très important. Et Justice for Myanmar a publié en août un rapport assez complet avec 116 noms d'entreprises et d'individus identifiés comme des négociants en achat d'armement pour la junte birmane. Donc il y a vraiment matière en fait à ce que l'Union européenne adopte beaucoup plus de sanctions ciblées. Là, les États-Unis viennent tout juste de sanctionner une entité et trois individus négociant en armement pour la junte. Et du coup, l'Union européenne a les données, enfin, il y a les noms, les entités. Et donc là, on doit faire beaucoup plus pour continuer à la fois à tarir les sources de revenus de la junte et aussi à tarir évidemment les ventes d'armement à la junte. Sur les sources de revenus, il faut voir que là, le gros enjeu aussi, c'est que la MOJ, la Myanmar Oil and Gas Enterprise, n'a pas encore été placée sous sanction par les États-Unis.
Pourquoi, à ton avis?
Ça, il y a des réticences. Alors Chevron a annoncé qu'il partait. Il y a un intense lobbying, comme Total d'ailleurs, mais du coup il y a un intense lobbying au niveau américain. Je ne sais pas exactement à quel levier les blocages se jouent, parce qu'on pourrait penser que là, cette mesure est vraiment indispensable venant de la part des États-Unis, sachant que après c'est la loi américaine est extraterritoriale, donc elle s'appliquerait à tout le monde.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas le cas des sanctions européennes, au niveau de l'Union européenne.
Bien. Alors, donc, est-ce qu'on peut faire donner le nom des entreprises françaises qui s'obstinent à rester en Birmanie? Je sais qu'Accor ne veut pas partir. Accor a dans son conseil d'administration un ancien président de la République qui est plus près de la prison que de l'avancement, qui est Nicolas Sarkozy.
Oui, alors Accor est toujours en Birmanie. À ma connaissance, Accor avait été épinglé par la société civile, notamment Justice for Myanmar, mais c'était par rapport à des dons en fait qu'avaient fait certains de ses partenaires dans le cadre de la campagne d'épuration ethnique. À l'époque, c'était le terme désigné, mais maintenant on parle de génocide. En tout cas, c'est le terme employé par les États-Unis maintenant pour désigner les crimes commis à l'encontre des Rohingyas. Donc du coup, c'était dans ce cadre-là que Accor avait été ciblé. Ciblé, voilà. Après, il y a encore, le message qui devrait être porté par la France aussi très fortement, mais qui ne l'est jamais, en tout cas vocalement, c'est de dire que évidemment, qu'aucune entreprise française ne doit être en lien avec la junte ou avec des entreprises liées à la junte. Et donc, il y a une grosse vigilance à avoir à ce niveau. Et que ça, c'est, le départ de Total étant acté, évidemment, il y a une vigilance qui doit être maintenue sur ces liens économiques ou des velléités d'investissement. Voilà, il faut s'assurer que les liens, tout lien avec la junte soit rompu.
Bien. On a appris récemment, dans un autre ordre d'idée, que Meta, la maison mère de Facebook, avait été ciblée parce qu'elle aurait permis, en laissant certains comptes, propager des rumeurs infondées sur les Rohingyas. Et donc, on demande des réparations pour les Rohingyas. C'est exact ?
Oui, c'est un rapport d'Amnesty International et qui a été beaucoup relayé dans la presse, à juste titre, parce que ça montre la responsabilité de Meta, de Facebook, dans la répression, dans les crimes qui ont été commis à l'encontre des Rohingyas. Et ça met en lumière le fait que, pour Amnesty, c'est une responsabilité juridique. Une responsabilité juridique qui peut être engagée et ça détaille aussi toutes les alertes qui ont été données à Facebook et les alternatives, les solutions, les vérifications et les réajustements de leurs algorithmes, de leur fonctionnement, rien n'a été entrepris en fait, et ça montre bien, enfin comme le dit Amnesty malheureusement, que c'est le profit qui prime. Et ça, c'est, enfin, cette demande de réparation des Rohingyas est d'autant plus importante que c'est vrai que malheureusement, 5 ans après leur exode massif en 2017, à cause des crimes de l'armée, ils sont toujours dans les camps surpeuplés du Bangladesh sans aucune perspective. Et donc cette demande de réparation pour financer l'accès à l'éducation dans les camps notamment, c'est bien la moindre des choses. Et si Amnesty parle de responsabilité juridique, c'est que ça peut aussi aller plus loin, sans doute au-delà de cette demande de réparation au civil.
Bien. Donc, si vous avez l'occasion de relayer ce message par rapport contre Facebook pour les Rohingyas, n'hésitez pas, chers auditeurs.
Oui, il y a une pétition en ligne qui circule. Amnesty a publié une pétition donc, pour venir en soutien de cette demande de réparation. Donc, c'est important de la signer et de soutenir donc, cette demande de réparation des Rohingyas.
Alors, quelles actions Info Birmanie demande ce mois-ci pour soutenir la Birmanie?
Pour soutenir la Birmanie, on essaye en ce moment d'identifier de nouveaux élus en fait, qui pourraient porter la cause birmane, parce qu'on a besoin de plus de soutien au niveau parlementaire. Donc ça, c'est une chose. Et par rapport aux suites liées aux entreprises, je voulais souligner, parce qu'on évoquait le cas de Total, c'est que le Chris Gunness, qui est le responsable du Myanmar Accountability Project, qui est une ONG en fait qui lutte contre l'impunité en Birmanie, est en train d'étudier des suites judiciaires par rapport à Total et aux révélations du Monde, et il l'a dit publiquement dans une interview récemment parue en anglais. Ça me semble un aspect assez important. On a d'autres interpellations en cours, mais que je n'évoquerai pas publiquement aujourd'hui à l'antenne, mais on projette aussi évidemment de cibler certaines entreprises qui sont toujours en lien avec des entreprises détenues par la junte. Donc ça, c'est notre agenda des mois à venir. Et évidemment, on a eu alors aussi un rendez-vous avec une militante birmane, Kinomar, de l'ONG Progressive Voice, qui était de passage à Paris, et elle a pu rencontrer des représentants du ministère des Affaires étrangères pour porter ses revendications sur la reconnaissance du NUG, sur ces sanctions ciblées qu'on évoquait tout à l'heure contre la junte. Et on a aussi récemment publié une lettre ouverte signée par 38 organisations françaises et internationales pour demander à la France d'appuyer la requête de la Gambie devant la Cour internationale de justice contre la Birmanie par rapport à la violation de la Convention sur le génocide donc de l'ONU. Et ça, c'est aussi important, puisqu'on voit que le peuple birman se fédère sur ces enjeux de justice et de lutte contre l'impunité face à la junte. Et c'est une demande qui n'est pas seulement celle des Rohingyas, mais qui est aussi portée par le peuple birman, d'autres minorités, les Bamars, tout le peuple birman qui se joint à ces efforts. Et donc il est temps aussi pour la France, alors que l'Allemagne vient de rejoindre, d'appuyer cette requête, que le Royaume-Uni vient de rejoindre cette requête, il n'y a aucune raison qui justifie que la France ne se joigne pas à cette requête, qui est un enjeu fort pour la lutte contre l'impunité pour tout le peuple birman.
Bien. Alors, de toute façon, toutes les informations, les actions à venir, quand on peut en parler, sont sur le site d'Info Birmanie, qui relaie les comptes Twitter, Facebook,
Instagram.
Et Instagram. Voilà, j'allais y venir. Merci, Sophie.
Merci, Mariama.
Un dernier mot, peut-être, une conclusion ?
Une conclusion, merci de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de la situation en Birmanie, qui doit être davantage relayée, connue, je pense, parce que on voit ces derniers jours des citoyens français se mobiliser, des personnalités se mobiliser assez fortement par rapport au mouvement des femmes et du peuple iranien,
oui.
Qui est aussi exemplaire de courage par rapport à la répression. Et c'est vrai que le slogan « Femme, vie, liberté » est repris, est médiatisé. Je pense que le symbole à trois doigts de la révolution birmane, la résistance du peuple birman, qui a vécu des décennies sous la junte militaire, qui a connu un semblant d'ouverture, qui se voit de nouveau... qui se le voit confisqué et qui vit une situation absolument abominable sous la junte et qui lutte avec tous les moyens qu'il a au risque de sa vie au quotidien. Je pense que ce combat-là doit vraiment être mis en lumière et doit être soutenu et relayé, appuyé. Et c'est très important et ça nous concerne aussi tous en tant que citoyens français, citoyens du monde. Cette lutte-là est aussi la nôtre et on le voit aussi puisque la Russie qui attaque l'Ukraine soutient la junte, et c'est vrai que cette alliance entre la junte birmane, la Chine, la Russie, voilà, nos ennemis communs sont tous désignés. Nous devons vraiment aider le peuple birman à démanteler cette junte et le faire maintenant.
Voilà, merci Sophie. Alors, pour information, nous recevrons Sophie à plusieurs reprises encore parce que la vocation de Radio Libertaire, c'est de recevoir les gens qui n'ont pas la parole fréquemment ou pas du tout la parole, pour des causes qui nous sont chères. Et la démocratie, c'est une cause qui nous est chère, à nous les anarchistes. Et donc, la Birmanie, il n'y a pas de raison. Merci Sophie.
Merci Mariama.
Merci Jean-Michel d'avoir été notre technicien, comme d'habitude. Un des meilleurs techniciens de la radio, je précise. À bientôt. Portez-vous bien et rendez-vous dans 15 jours.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rougi, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura un chef de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. la rage. J'ouvre officiellement devant le juge, tu juges, c'est qui mon jugé, tel qu'un maribin. Je dis blousé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à ça tout, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Oh, Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel l'avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La navette, tant que je ne savais pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs en me laissant à l'âme un mal funeste. Et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau et passent devant libertaire. À vous, vieux compagnon, dont la jeunesse est à la douane, et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. À quelques heures de Barcelone, se sont groupés des menuisiers et sans patron, tout refonctionne. On sourit dans les ateliers. Sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle, des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades comme hier la Confédération. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, des ouvriers, des ouvrières détruisent une